Alors, à partir de ce point, le cours se modifie puisque jusqu'à présent, il a consisté en une série, on pourrait dire, de monographies et d'histoire de la philosophie. Et maintenant, nous allons procéder à une forme plutôt thématique. Donc, cette forme va consister à aborder différents thèmes à partir des acquis, si vous voulez, que nous avons après cette traversée de différents auteurs. L'enjeu pour nous, c'est de revisiter en fait une pensée qui, à nos yeux, à Philanthropos, mais aussi, je pense, au séminaire, est une pensée extrêmement classique, familière, qui est celle de Thomas d'Aquin, ou aussi d'Aristote, si vous voulez. Je pourrais ajouter Cicéron, parce qu'il est évident que Thomas d'Aquin est aussi un disciple, un lecteur de Cicéron, et que la philosophie morale de Thomas d'Aquin n'est pas qu'une philosophie aristotélicienne, elle doit énormément... en amont à Platon et en aval à des auteurs latins, je veux dire pour la philosophie, principalement Cicéron, puis après à tous les pères de l'Église, bien sûr, et spécialement saint Augustin et Grégoire le Grand. Alors, donc cette leçon ne porte pas le nom d'un auteur et s'intitule, je dirais banalement, « Deviens ce que tu es », une sorte de clichés éhontés. J'ai presque honte d'avoir donné cet intitulé-là. Par pur snobisme, hein, bien sûr. Ouais, bon. Trouver un truc un peu plus original. Alors, c'est une phrase, juste une petite remarque sur cette parole. Bien sûr, c'est une parole qui a été mise en exergue par Nietzsche, que lui-même attribue à Pindare. Et je dois vous avouer que j'ai essayé de me souvenir du lieu pindarique où se trouve cette phrase, qui ne se retrouve jamais sous cette forme-là exactement, et j'en ai perdu le souvenir. J'ai travaillé à une époque là-dessus, j'ai même fait une petite étude sur Pindare, mais alors, ça a été recouvert par des tas de choses. Et puis, je n'ai pas eu le temps de le retrouver, mais je vais essayer de vous dire ça pour la prochaine fois. Parce que trop souvent, on reprend cette phrase hors contexte et j'aimerais bien qu'on puisse voir dans quel poème Pindare, un poème forcément athlétique, hein, je ne crois pas que ce n'est pas dans les Olympiques, il me semble que c'est dans les Pythiques, mais enfin, vous voyez, c'est un poème qu'il écrivait pour des jeux. Hein. Vous savez que Pindare... Je vous l'ai déjà dit, je sens, il me semble, enfin, je ne sais pas, parce que je parle à tellement de gens différents, j'oublie. Si je radote, pardonnez-moi, mais c'est aussi normal si je radote, parce que je commence à me faire vieux. C'est que le Pindare est un des plus grands poètes, je veux dire, un des pères fondateurs de la poésie, et pourtant, il n'a fait que des poèmes sur des sportifs. Vous voyez ? Donc la poésie, c'était des poésies à l'occasion toujours de jeux entre les différentes cités helléniques. Et donc à chaque fois qu'il y avait un vainqueur, vous voyez, il écrivait un grand poème, voyez, sur ce vainqueur. Sachant que l'idée de fond d'ailleurs, derrière le « deviens ce que tu es », doit renvoyer forcément une idée profonde de Pindare, c'est que la vérité des mortels se trouve dans l'épreuve. Hein, c'est un point fondamental pour Pindare. Hein. Ce que nous sommes, non seulement nous avons à le devenir, mais en fait, ça n'advient ou ça ne se manifeste qu'à travers une épreuve. D'où, vous voyez, l'épreuve olympique, l'épreuve sportive, c'est un peu réducteur, parce qu'à l'époque, ce n'était pas proprement parler du sport, vous voyez. Bon. En tout cas, pas ce qu'on entend aujourd'hui par le mot sport. Mais c'était très important, et alors, avec cette idée que, et cela je peux le dire au seuil, justement de toute cette réflexion qui va déboucher sur la théologie morale, même si je m'arrêterai au seuil de la théologie morale. Mais à l'orée de toute cette démarche, je peux dire cette chose très importante chez Pindare, et c'est ça qui fait notre fascination pour le sport, pour le football, pour, à de haut niveau, c'est que on peut s'entraîner, on peut faire des performances, mais la victoire n'est pas que le résultat de notre effort. Il y a toujours une part qui nous échappe, vous voyez, de contingence dans la victoire. Vous avez vu cette année dans le championnat d'Europe, comme ça, des équipes complètement inattendues, vous voyez, qui ont battu des gros monstres favoris. Ben, c'est possible parce que justement, l'issue d'un match, on la connaît pas absolument à l'avance. Il peut toujours se passer un truc, vous savez, ces types qui font des tas de tirs et puis à chaque fois ils se prennent le poteau, quoi. Ou, putain, il leur manque rien, quoi. Vous savez, on dit souvent ça, quoi. Ouais, ils ont manqué de réussite. Mais manquer de réussite, c'est déjà dire que la réussite n'est pas que le résultat du travail. La réussite est un don. Et c'est toujours cette idée que chez Pindare, vous voyez, les athlètes sont des grands athlètes, des types préparés pour l'exploit, mais ultimement, la victoire, c'est les dieux qui la donnent. Ouais, c'est très intéressant. C'est pas le simple fruit de l'effort. Il y a un effort, mais la victoire est toujours de l'ordre de la grâce, d'un couronnement divin. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces grands hymnes où l'athlète devient ce qu'il est, apparaît pour ce qu'il est et se révèle à travers l'épreuve? C'est parce qu'il est généralement aussi un fils d'une grande famille. Et alors, Pindare va écrire, vous savez, des sortes de mythologies de ses familles, il les rattache à la question des dieux. Et il voit toujours l'individu Pindare comme le récipiendaire ultime, vous savez, d'un grand entonnoir familial, vous voyez, où il y a eu des tas de gens avant lui. Puis là, il est à la fine pointe et il a été couronné. Donc, c'est toute sa famille qui est couronnée par les dieux. Et c'est pour ça que dans son origine, vous voyez, on doit revoir déjà la trace des dieux, etc. Donc, c'est très étonnant, mais ça, c'est un signe. J'en parlerai d'ailleurs à nouveau quand je parlerai de Tolkien, mais enfin... La fonction de poète est une fonction politique, une fonction majeure dans une société vous voyez, qui est bien constituée. Qu'est-ce que ce serait qu'un grand sportif ou un grand athlète s'il n'y a personne pour chanter ses exploits, si vous voulez? Même un homme politique, vous voyez, si ce qu'il fait est uniquement la proie des journalistes, mais peut-être qu'il veut cela, vous voyez, parce qu'il est... C'est que la proie des journalistes, vous êtes obligé d'être... Enfin, vous pouvez en rester à un niveau médiocre. Parce que vous ne pouvez pas... Vous voyez, pour être chanté, vous êtes obligé de poser des actes dignes de cela. Imaginez qu'il y a un poète chargé de porter dans des hymnes ce que fait François Hollande. François Hollande aurait tout d'un coup cette exigence dans son action de dire « il faut qu'on... je dois faire des choses qui sont chantables. » Vous voyez ? À la place de ça, là, il s'est exposé à des journalistes n'importe comment, vous voyez, parce que c'est trop peur. Donc, autrefois, hein, dans un monde bien constitué, le poète est vraiment celui qui, à la fois, permet au pouvoir d'être connu, d'avoir une renommée, mais en même temps impose au pouvoir le fait qu'il doit faire poser des choses qui ressemblent à des exploits. Quoi. Alors, on parlera longuement de cela à propos de Tolkien, mais vous voyez, à l'époque, ben voilà, il fallait Pindare, il fallait pas, s'agissait pas d'avoir la médaille d'or, vous voyez. Vous aviez Pindare qui vous célébrait. Et c'est ça qui allait durer, c'était plus que la médaille d'or. Sachant que c'était des chants en plus avec des chorégraphies, avec des, enfin bon, des trucs incroyables, quoi. C'était meilleur que Broadway, quoi. Bon. Alors, deviens ce que tu es. C'est une parole qui renvoie à quelque chose qui apparaît paradoxal. Ce qu'on est, on l'est, on n'a pas à le devenir. Mais en même temps, qui est extrêmement banal, puisque tout être créé passe d'un état d'imperfection à un état de perfection. Hein, il connaît une croissance qui lui fait atteindre sa maturité. Sa maturité étant, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans sa capacité à engendrer, hein, dans un être vivant. Donc, ce n'est pas très original. On a une nature, on est un chêne, par exemple, et le chêne devient ce qu'il est. Au départ, il n'est qu'un gland, comme beaucoup d'entre vous. Et petit à petit, il va se déployer et il va se devenir pleinement, d'ailleurs manifester la plénitude de la réalité du chêne. D'accord ? Donc, c'est ça qui est très important, c'est de voir que, en fait, ça n'a rien d'original. Devenir ce qu'on est, c'est le dynamisme même des êtres vivants, hein, qui deviennent ce qu'ils sont. Et donc, vous voyez, ça se déploie à l'intérieur d'un... Notre perfection se déploie à l'intérieur d'un devenir. Ça prend du temps, ça prend... Voilà, c'est déjà la première chose. Je vous l'avais dit aussi en introduction, il y a une différence entre l'homme et l'animal, ou encore entre l'homme et l'ange, dans ce « deviens ce que tu es ». Si vous prenez les autres animaux, l'homme, à la différence des autres animaux, ne devient pas ce qu'il est seulement parce qu'il est dans un environnement favorable. Je vous l'avais dit au début du cours, hein, nous avons à atteindre notre perfection de manière aussi délibérée par nos choix. Et c'est ça la question de la morale. Hein. Que devons-nous faire ? Alors que les autres animaux atteignent leur plein développement à partir de conditions favorables, selon un mode qui est non délibéré, qui est spontané. Ça va relever du déploiement biologique et puis de l'instinct, si vous voulez. Donc c'est pour ça que, je vous l'avais dit très tôt, que la plupart des chiens deviennent parfaitement canins, alors que c'est pas la plupart des hommes qui deviennent parfaitement humains. Ils tous appartiennent à l'espèce humaine, mais est-ce que tous déploient la pleine stature, si j'ose dire, de l'humanité ? On sent que, bon, il y a beaucoup de choses qui restent un petit peu à l'état de potentialité, si vous voulez. Il y a des choix à faire, et ils sont souvent difficiles à porter jusqu'au bout, en tout cas. De l'autre côté, si vous prenez les anges sont créés d'emblée dans un état de perfection. Du point de vue de leur nature. Vous voyez, un ange, par exemple, il n'a pas à aller à l'école. Il apprend tout de suite, il sait tout de suite. Dès qu'il apparaît, vous voyez, il a une plénitude d'intelligence et de volonté, alors que nous, vous voyez, il y a vraiment du temps quoi, qu'il faut pour exercer bien notre intelligence. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien découvrir, il y aura des découvertes. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ses facultés soient pleinement elles-mêmes, il est pris dans une aventure, l'ange aussi. Hein. Mais il n'a pas, ses facultés sont d'emblée dans un état de perfection. Son intelligence, sa volonté sont créées d'emblée dans un état de perfection. Et le devenir de l'ange, dans le fait de devenir ce qu'il est, hein, pas simplement après, une fois que vous êtes quelqu'un, de déployer une aventure qui vous est propre, mais vraiment en termes de croissance, ça va se faire juste dans un instant, c'est-à-dire le moment où il est créé dans la grâce, est-ce qu'il va accepter ou pas accepter cette grâce. Et le devenir ce qu'il est de l'ange se joue uniquement au niveau surnaturel. D'accord ? Mais pour nous, ce n'est pas que le niveau surnaturel, c'est aussi le niveau naturel qui est en jeu. D'accord ? Donc c'est normal qu'on devienne ce qu'on est. Alors, maintenant, ça veut dire aussi qu'on va affirmer ici une morale qui est fondée sur l'être. C'est pour ça que je vous ai mis en exergue une phrase de Maître Eckhart qui était chère à Joseph Pieper. Les gens ne devraient pas tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire qu'à ce qu'ils doivent être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais ça veut dire que le faire doit être fondé sur l'être. Et que c'est à partir de l'être, et c'était précisément la leçon, vous voyez, de Nietzsche, à partir de l'être, comme déploiement de l'être, comme fructification de l'être, qu'il faut penser la morale. Pour commencer, je voudrais partir d'un texte de celui qui a tenu pendant très longtemps la chaire de théologie morale à la faculté de théologie de Fribourg. À savoir, le père dominicain Servet Pinkers, qui est au ciel, je suppose, maintenant, mais lui a succédé un théologien actuellement américain. C'est possible. Dominicain Michael Sherwin. Et Pinkers a fait tout un travail pour retrouver ce qu'était la morale chez Thomas d'Aquin contre tout ce qu'on en avait fait, on pourrait dire, à partir du thomisme ou du post-thomisme, et notamment à partir du XVIIe siècle. Il y a eu des traités de morale qui ont circulé dans l'Église, qui étaient parfois même présentés comme des traités de morale thomiste, mais qui renversaient complètement la perspective de saint Thomas et qui relevaient d'une toute autre perspective. Et ça, c'est quelque chose de vraiment singulier que le père Pinkers a bien observé et qui permet de comprendre pourquoi Nietzsche a eu raison d'attaquer ce qu'on avait fait du christianisme. Parce qu'il faut voir ce qu'a été la théologie morale pendant très longtemps. Alors, ce texte de Pinkers, c'est un peu un résumé de ce dont il s'était rendu compte. Donc, je suis en théologie, mais l'enjeu, c'est d'avoir vraiment ici un point de vue philosophique. Voilà ce qu'il écrit. Quand on ouvre la segunda pars, la deuxième partie, de la somme de théologie. Alors, vous savez, la somme de théologie, elle est d'abord un traité sur Dieu, Dieu un, Dieu trine, puis la création, le gouvernement divin, vous voyez, c'est la prima pars. Puis deuxième partie, on commence tout de suite par des questions finalement qui concernent la morale. Alors on dit que la structure, c'est première partie, vous voyez, on sort de Dieu, c'est la création et tout le mouvement, et puis après, la deuxième partie, c'est toute la question du retour à Dieu. D'accord ? En général. Puis la troisième partie, ben, ça va être la vie du Christ, enfin le Verbe fait chair, etc. Et donc l'incarnation comme étant le lieu même avec les sacrements du déploiement effectif de ce retour. Alors, voilà ce qui se passe. Hein. Donc, quand on ouvre la seconda part, ce qu'on voit donc dès lors comme un lieu majeur de théologie morale, on a la surprise de ne pas y trouver une seule question traitant directement de l'obligation morale. La question de l'obligation morale, ça n'intéresse pas Thomas d'Aquin. Pourtant, on avait l'impression que c'était le truc obsessionnel, vous voyez, de Kant, qu'est-ce que je dois faire, donc le devoir, quelle est mon obligation, et puis, vous voyez, c'est difficile, je dois en baver, parce que l'obligation, c'est quelque chose qui s'impose à moi de l'extérieur. Il n'y a rien de cela. Ça, c'est surprenant. Comment peut-on distinguer les actes humains en bons et en mauvais sans même parler d'obligation ? Nous ne trouvons pas non plus dans les questions consacrées par Thomas au bien et au mal moral une étude sur la conscience qui est une notion corrélative à celle de l'obligation. Et oui, l'étude sur la question de la conscience morale, c'est quand même fondamental, c'est vrai, Bob. Pour les jésuites, par exemple. La notion de conscience morale, c'est central dans la morale, je dirais, post-Thomas d'Aquin. Eh bien, il n'y a rien sur la conscience morale. Enfin, pas grand-chose. On parlera de Saint d'Hérèse, enfin, pour expliquer comment l'intelligence accède, si vous voulez, au principe de l'action. Mais ce n'est pas un traité de la conscience morale comme on le trouvera habituellement. Alors, voilà ce qu'il dit. Si l'on compare l'ordonnance habituelle de nos manuels de morale, il pense aux manuels qui ont eu cours jusqu'au début du XXe siècle, hein, avec le plan de la prima secundae, donc de la première partie de la deuxième partie de la somme de théologie, donc la seconda pars, hein, toujours, qu'ils invoquent souvent, donc nos manuels de morale invoquent souvent ça, mais voilà, on remarque de nettes différences. Les traités de la fin ultime et de la béatitude ont disparu. Chez les auteurs d'obédience strictement thomiste, ils subsistent, mais plutôt comme des organes témoins. Ouais, donc c'est un état résiduel. Les traités du péché et de la loi ont enjambé ceux des habitus et des vertus, désormais très réduits, et constituent avec les traités des actes humains et de la conscience la morale fondamentale. De plus, le domaine entier de la morale est envahi par les problèmes de la conscience douteuse dont saint Thomas et les auteurs anciens avaient à peine parlé. Donc, voilà ce qui se passe. Hein. Quand il s'agit de parler de morale, la première chose dont parle Thomas, c'est la joie. La joie. La béatitude. Mais attention, hein, la béatitude, ce n'est pas le bien-être. Hein. D'ailleurs, quand vous êtes la béatitude, suppose une béance. Si vous entendez bien le mot, vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la dilatation, mais aussi, dans notre condition, du déchirement dans la béatitude. D'autant que la béatitude étant surnaturelle, elle nous renvoie à une vie qui dépasse la nôtre et donc qui est excessive. Donc vous voyez, on est pris, et une vie qui est relation à un autre. Parce que la béatitude, c'est d'abord une relation à la divinité. Il n'y a pas d'éternité dans le christianisme, vous savez. Pas d'éternité. Il y a l'éternel. C'est une personne. La vie éternelle, ce n'est pas un état. D'un coup, j'aurai l'éternité en moi-même, vous voyez, je suis... Non, c'est relation à l'éternel. C'est un rapport à un autre. Et c'est entrer dans sa joie, qui est une joie qui excède tous mes plaisirs, toutes mes... plénitude. En pensant en termes de plénitude, ça veut dire que, vous voyez, ce qui est important, c'est ce qui rentre en moi, puis je suis plein. Vous voyez, mais il n'est pas dit, la joie du Seigneur va être en toi, dans toi. Elle va entrer en toi, c'est toi qui entres dans la joie du Seigneur. Et c'est pour ça que cette joie est tellement supérieure à nos petits contentements, à nos petits plaisirs, à nos plénitudes, à notre mesure, vous voyez, qu'elle est déchirante. Et ce que s'efforce de penser Thomas d'Aquin en premier lieu, vous voyez, c'est cette joie qui est en excès sur tous nos plaisirs. C'est cette joie qui vient briser nos petits contentements. Cette joie qui vient briser nos contentements pour nous ouvrir, vous voyez, jusqu'à la béatitude. Ouais, béatitude, c'est en excès par rapport à la simple notion de bonheur. Faut jamais oublier ça, hein. Donc, il commence comme ça, quoi. C'est jubilatoire. C'est d'abord ça qui est mis en avant. C'est cet excès de la joie divine qui vient jusqu'à nous. Et à partir de là, vous voyez, il va réfléchir aux actes humains, puis, justement, à cette manière où les actes humains prennent du temps avant de devenir bons. Donc, on passe à la question des habitus et des vertus, qui est le déploiement, je dirais, intérieur, vital de la vie morale. Et ça n'est qu'après qu'il va parler de la loi. Il s'intéresse d'abord aux passions, aux vertus, puis après il va parler de la loi. Or, qu'est-ce qui se passe dans les traités de morale, je dirais, modernes? C'est que, on va arriver à cette idée-là, voilà, il y a la liberté... individuelle, d'un côté. De l'autre côté, vous avez la loi divine. Et la conscience morale est un intermédiaire qui cherche à négocier, à réconcilier, si vous voulez, la liberté individuelle et la loi divine. Dieu me dit un truc, moi je suis libre, bon, si j'ai à libre, j'aimerais faire plein de trucs, pas seulement ce que me dit Dieu. Donc il me propose des tas de choses, enfin je me propose de faire des tas de choses, mais lui il me dit non, voilà ce que tu dois faire. Alors je dois me restreindre, comprendre en quoi c'est mieux pour moi, mais je dois restreindre ma liberté, et même en quoi c'est mieux, pas forcément pour moi, mais pour la vie sociale, et parce que l'ordre est conçu comme cela. Si j'avais été un pur individu, seul, j'aurais déployé ma liberté dans un sens illimité. Donc je vois la morale comme ce qui vient, d'une certaine façon, s'imposer à moi de l'extérieur, voyez ? Et je dis à Dieu, ben voilà, j'accepte de limiter ma liberté parce que j'obtiens ceci ou cela de ta part, voilà, ou parce que tu es Dieu. D'accord ? C'est une morale islamique, en fait. Les chrétiens ont aimé beaucoup la morale islamique pendant un certain temps. La morale de la soumission à la loi, à une loi. Donc, vous voyez, c'est ce que dit Pinkhurst par la suite. L'édifice de cette morale casuistique, alors pourquoi il l'appelle casuistique ? Parce que la grande question, ça va de dire, voilà, mais dans cet écart qu'il y a entre ma liberté individuelle et, d'ailleurs, ça s'écrit deux L-E, et ce que je voudrais faire, et ce que m'impose la loi, ma conscience peut être face à des cas, alors, parce qu'à chaque fois, il faut renégocier, quoi. Comment est-ce que je vais ajuster la loi divine avec ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, jusqu'où je peux aller. Alors, on va être dans une étude des cas, question de la conscience douteuse qui n'aurait pas été complètement éclairée, vous voyez. Ça, c'est typique de toute une certaine morale. Donc, l'édifice de cette... Vous avez d'ailleurs des textes extraordinaires, des dictionnaires de casuistique. Si vous n'avez jamais lu des choses comme ça, c'était formidable. Des gens qui se posent des questions incroyables, vous voyez. Si un homme et une femme, par exemple, sont dans une église enfermés parce qu'il y a la guerre autour d'eux et qu'ils ont pu se réfugier sous l'autel, est-ce qu'il est sacrilège d'avoir un acte sexuel avec sa femme à cet endroit-là ? Là, c'est des questions qui se posaient, quoi. Alors, l'auteur, à l'époque, il dit « si, non, il ne faut pas. Il ne faut pas faire ça. » Ça reste quand même l'autel de Dieu, etc. Moi, je n'ai pas cet avis-là. Ah, c'est le problème de la casuistique, hein, c'est que vous pouvez argumenter d'une autre façon. Mais si vous n'avez pas d'autres possibilités, si dehors vous mourrez, enfin, franchement... Vous savez, il y avait un... Comment il s'appelle ce grand auteur russe qui a écrit ces Feuilles tombées, Rozanov. Rozanov... un passage magnifique dans son livre où il dit, enfin c'est un recueil de petits textes, hein, c'est une sorte de journal. Il dit, j'ai expliqué au pape qu'il devait, que ce serait bien qu'un couple, enfin que dans l'église, il y ait un endroit où les jeunes mariés, vous voyez, peuvent rester après, de telle sorte qu'ils puissent s'unir à l'intérieur de l'église pour la première fois, et même qu'ils restent dans une annexe au couvent jusqu'à ce que, voyez, servi par des moines, des religieux, jusqu'à ce que la femme sente soit enceinte et sente les premiers frémissements de la vie en elle. Et alors les peuples lui disent, mais vous ne vous rendez pas compte, il y a un endroit où les gens couchent ensemble, quoi, dans l'église. Vous ne vous rendez pas compte, c'est incroyable, vous ne pouvez pas faire ça, quoi. C'est absolument absurde. Ouais, c'est un peu ça, la caducité. Et alors Rozanov, il dit, en même temps, je suis entré dans une église et j'ai vu des portes avec des annexes où il y avait écrit « bureau ». Alors, vous voyez, pour lui, c'était l'horreur pure, quoi, parce qu'on n'a pas peur de faire des bureaux, vous voyez, mais on a peur de faire des chambres nuptiales. Donc, si ça va... Eh oui, On peut imaginer, non, franchement. Carrément une pièce spécialement dévolue à cela. Je dis pas sous l'autel, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Là, c'était un cas très particulier. Il y avait la guerre autour, etc. Bon. Mais je dis en temps ordinaire, voyez. Alors, c'était d'ailleurs, je pense, le sens du voile. Vous savez que quand on, autrefois, le voile, la femme, on peut l'interpréter de différentes façons, mais autrefois, la tradition, ce qui donne le mot noce, hein, qui vient de nubes, qui veut dire le nuage, mais aussi le voile, vous voyez, c'est le fait que les nouveaux époux, on les enveloppait dans un voile et on montrait qu'ils formaient tout d'un coup une réalité propre, une communauté propre qui n'était plus, il n'est plus simplement la fille de papa et maman et le fils de papa et maman. Il fondait une nouvelle famille et donc une réalité sainte à part. C'était une nouvelle communauté. Et c'est pour ça qu'on les enveloppait ensemble. Oui, Nazareth ?
On les enveloppait ensemble au mariage, mais ensuite la femme, enfin, même nous en tant que chrétiens, on portait le voile, non, entre guillemets. Emporter le voile par respect à l'Église.
Ah, non, mais ça, c'est pas la même chose. Là, le voile, il y a ce voile qu'on entoure. Après, les femmes, on leur disait d'avoir les cheveux couverts hein, à l'Église, mais c'est pas... Enfin, le mot voile est très ambigu aujourd'hui. On sait pas ce dont on parle. Hein, mais...
Et ce voile ?
On mettait sur la tête ?
Sur l'homme.
Ah, là, c'est un voile qui les entourait complètement. Comme le voile de la mariée, si vous voulez. Qui les voile à l'égard des autres. Là.